Bien, je voulais vous dire que nous avons dans notre rue, parmi nos voisins d'en face et nos voisins sur le côté de la maison, ce sont maintenant des jeunes couples avec enfants. Pendant longtemps, c'était tous des vieux qui avaient là. Et nous, on était les plus jeunes. Mais les temps changent. Maintenant, on est devenus les vieux, et puis eux, ce sont les jeunes. Et parmi ces jeunes, quand je dis jeunes, bon, c'est la trentaine, hein. Et ces jeunes d'en face de la rue ont fait construire une extension, parce que la maison était un peu petite. Ils avaient essayé de vendre leur maison, mais avec les temps difficiles, ça n'a pas été possible. Alors du coup, ils ont pris la décision, ben, on va agrandir la maison, et ainsi ça va mieux nous convenir, parce que c'est bien situé tout de même à Lomprey, le village où il fait bon vivre. Pourquoi vous riez? C'est la formule, hein, de la mairie, hein, de la nouvelle maire qu'on a, hein, qui est très bien d'ailleurs. Alors, pour parler de cette extension, eh bien, ils ont eu affaire à une petite entreprise de maçonnerie. Et là, on a pu remarquer que vraiment, ils ont été sérieux. Et ils ont fait preuve de beaucoup de conscience professionnelle. D'abord, comme il n'y avait pas beaucoup de place, ils nous ont demandé si ils pouvaient amener leurs matériaux et vers leur béton sur notre trottoir, notre parking. Bon, on a dit, ben oui, hein, pourquoi pas. Et il a dit, ben, je vous récompenserai. À la fin des travaux, je vous paierai une bouteille de champagne. Et il a tenu parole, il l'a fait. Hein. Et c'est tout ça pour vous dire qu'ils ont bien fait leur travail. Ils ont bien fait leur travail, ils nettoyaient à chaque fois, et quand ils avaient fini leur journée. D'ailleurs, ils n'avaient pas d'heure précise, et ils terminaient quand ils avaient fini. Et là, je peux dire que tout n'est pas si mauvais dans notre, heureusement, hein, tout n'est pas si négatif dans notre société actuelle. Il y a encore des choses positives, et en particulier, la conscience professionnelle existe encore, elle est encore là, et je parle, parce que je regarde certains d'entre vous, dans l'enseignement, par exemple, n'est-ce pas, les professeurs des écoles, les maîtresses, institutrices, et ainsi de suite, il y a aussi encore beaucoup de conscience professionnelle chez les... dans la médecine. Et je pense, et je veux parler des urgentistes, ceux qui travaillent. Et alors, ils sont débordés complètement. Mais alors, ils font leur boulot. Ils font leur boulot jusqu'à épuisement. Et là, on peut dire que vraiment, c'est de la conscience, la bonne conscience, la conscience professionnelle. Mais je voudrais vous parler aussi de la conscience selon la parole. Alors, qu'est-ce que c'est que la conscience? Eh bien, on peut dire, pour avoir une image, c'est comme une petite voix qui est en nous, une petite voix, une voix intérieure qui nous dit que si ce que nous faisons est bonne ou mauvaise, et on peut parler alors à ce moment-là de bonne conscience ou de mauvaise conscience. Quand on fait quelque chose qu'on n'a pas bien fait, on ressent un malaise en nous, quelque chose qui nous culpabilise un peu, et puis vraiment, on n'est pas bien, quoi, si on veut dire. Et alors cette conscience, d'où nous vient-elle? D'où nous vient-elle? Alors cette conscience, elle peut être véritablement innée de par la nature. Il y a des gens, vous savez, qui font naturellement, qui ont une bonne conscience, qui font des choses naturellement bonnes. Et ça fait penser à un passage justement dans Romains, dont on vient étudier depuis un an ou deux, je crois. Alors, on peut lire ceci au début dans Romains, au chapitre 3. Tous ceux, chapitre 3 et au verset 12, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce n'est pas en effet ceux qui écoutent la loi et qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, qui n'ont pas la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas reçu la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils ont une loi pour eux-mêmes. Et ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience. Et voilà, on revient à cette histoire de conscience. Leur conscience, en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est leur conscience qui leur permet de voir, de réaliser en eux-mêmes ce qu'ils sont en train de faire. C'est un sens inné, en quelque sorte. Ils trouvent en eux-mêmes ce qu'il convient de faire, une loi. Alors, comment on pourrait la décrire un petit peu, cette conscience? On pourrait la comparer, par exemple, à nos sens. Vous savez que nous avons combien de sens déjà? 5? 5, hein? Alors, il y a quoi? Vous qui avez été à l'école, moi il y a longtemps que j'étais à l'école, alors j'ai oublié tout ça. Hein? Alors, quels sont les 5 sens?
L'odorat, le goût.
L'odorat.
Le goût.
Le goût.
La vue.
La vue.
Louis.
Ah, vous en avez oublié, hein.
Le toucher.
Le quoi?
Le toucher.
Le toucher. Alors, donc, c'est les 5 sens. Mais il y en a un 6e sens. C'est quoi? La conscience. Voilà. C'est simple, hein, il fallait y penser. Bon, alors, donc, où en suis-je, moi, ici? La conscience, une conscience qui peut être innée, mais aussi... une conscience qui n'a pas besoin d'être éduquée vraiment. On l'a ou bien on ne l'a pas, mais c'est ressentir quelque chose, mais surtout sur le plan moral. Par la conscience, je sais ce que je fais est bien ou est mauvais. Vous vous rappelez, j'ai parlé tout à l'heure de sens inné. C'est l'histoire Adam et Ève. Adam et Ève font quelque chose qui ne convient pas et ils mangent ce fameux fruit défendu. Et tout de suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent qu'ils ont péché. Ils savent qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. Ils savent qu'ils ont désobéi à Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. Ils se cachent à la vue de Dieu. Et il y a un autre passage aussi qui est... Vous savez, dans les Écritures, il y a des beaux textes, il y a des textes qui sont... vraiment, c'est de la pure littérature qui sont souvent cités. Et on voit, par exemple, dans l'évangile de Jean, qu'on connaît très bien. Et c'est l'histoire de la femme adultère. Jean, au chapitre 8. Cette femme adultère est... les scribes et les pharisiens, ils amènent à Jésus une femme qui était surprise en flagrant adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître », ça c'était de la part des pharisiens, c'était pas très sincère. « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, qu'est-ce que t'en dis ? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre. On connaît très bien ce texte. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur le sable. Et quand ils entendirent cela, ces scribes, ces pharisiens, accusés par leur conscience. Voilà, ils ont été accusés par leur conscience. Ils se retirèrent un à un, ils s'esquivèrent, autrement dit, ils se retirèrent de la vue de Jésus. Et Jésus resta seul avec la femme et lui posa cette question. Alors, qui est-ce qui te condamne maintenant ? Il n'y a plus personne qui te condamne. Voilà, c'est ça la conscience. Ils ont été accusés dans leur conscience. Alors, la conscience, d'où vient-elle, cette conscience ? La conscience, elle provient aussi, et en grande partie, de notre façon d'avoir été élevé. Déjà, tout petit, c'est là qu'on apprend aux enfants à faire ce qui est bien ou à faire ce qui est mal. Et à ne pas faire ce qui est mal, plutôt. Et ceux qui n'ont pas eu d'éducation, on les voit, hein, même on est dans un quartier sensible, et les parents, maintenant, on est dans cette société, il n'y a plus de parents, il y a les divorces, bien sûr, mais et le père, où il est le père ? Il est nulle part, il n'y a plus de père, alors il n'y a plus d'autorité, les enfants sont livrés à eux-mêmes, et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils font des bêtises, hein, qu'on voit bien maintenant, et ils font beaucoup, beaucoup de tort et de misère, de tort à la société. Il y a les enfants ont besoin d'être éduqués. Ils ont besoin d'être élevés dans la connaissance de la loi de la loi de Dieu. Et il y a un passage qui est intéressant, c'est dans le livre de Samuel, 1 Samuel, et c'est un sacrificateur qui s'appelle Élie. Élie, c'est E-L-I, Élie, le sacrificateur. Et le père, ce sacrificateur, je crois qu'il n'a pas élevé ses enfants correctement. Et alors, avec de telles charges, en plus, eh bien, il va y avoir de conséquences terribles, non seulement pour lui, pour ses enfants, mais aussi même pour la nation tout entière d'Israël. Je vais vous lire ce texte. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Autrement dit, ils n'avaient pas été éduqués. Le père ne les avait pas élevés dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance des lois de Dieu. Et alors, voici quelle était leur manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur des sacrificateurs arrivait au moment où on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à trois dents. C'est curieux, mais c'est comme ça. Moi, à la maison, j'ai mes fourchettes, il y a quatre dents, mais enfin, ça, c'est autre chose. Mais là, c'est une grande fourchette à trois dents. Et le sacrificateur arrivé, tenant à la main une fourchette à trois dents, il le piquait, pas dans l'assiette, il piquait directement dans le chaudron, dans la chaudière, et dans la marmite ou dans le pot, partout où il pouvait, et bien, paf, il retirait de la viande. Et c'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient pour offrir le sacrifice. Et naturellement, c'était condamnable. Et c'est toute cette famille de sacrifices, et le père aussi, Élie, a été largement puni. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de ta maison, la maison de ton père. Toute la famille a été vraiment châtiée en raison de ce manque au départ, manque d'éducation des enfants. En sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Bon, c'est pas. Alors donc, une conscience selon Dieu, une conscience pour Dieu, ça vient d'abord de l'éducation des enfants. S'ils n'ont pas été élevés, si on ne leur a pas expliqué, si on ne leur a pas fait connaître la loi de Dieu, mais en Romains, on dit que ce n'est pas le tout non plus de connaître la loi. Aussi, il faut la mettre en pratique. Bref, on voit d'autres histoires dans les Écritures. On voit les habitants de Ninive, hein, qui, lorsque, dans Jonas, hein, chapitre 4, et ils ne connaissaient pas, et on dit qu'ils avaient un manque de connaissance de la loi de Dieu. Et c'est pourquoi ils agissaient ainsi. Mais quand Jonas leur explique, eh bien, ils changent du tout au tout, et leur conscience les amène à s'éloigner du mal. Leur conscience les amène à s'éloigner du mal. Mais notre conscience, la conscience d'un chrétien, la conscience d'un croyant, peut-être un moment, on pourrait dire, pour employer le mot, déconnecté, si vous voulez. Bon, notre conscience, elle est un petit peu étouffée, on la met un petit peu en veilleuse, et au point que tout ça, ça peut nous amener à faire des choses vraiment qui ne sont pas du tout conformes à la loi de Dieu. Et on peut citer en exemple le cas de David, le cas de David avec Bathsheba, on dit aussi Bersabé, hein, Bathsheba. Et ça se voit dans, toujours dans le deuxième livre de Samuel, à un tel point que les gens font des choses même sans s'en rendre compte, et puis disent, véritablement, je ne savais pas. Il faut leur rappeler que ce n'est pas bien. Et là, comme je vous dis, il y a des endroits dans les Écritures où il y a des textes qui sont même cités en littérature. Bon, il n'y a pas que le jugement de Salomon qu'on voit, qu'on enseigne dans les classes et dans les écoles. Il y a de beaux textes, et je voudrais vous lire dans 2 Samuel au chapitre 12. C'est lorsque Nathan est envoyé pour faire la leçon, en quelque sorte, à David. Et il va dire une sorte de parabole, si vous voulez, et c'est un morceau de choix en littérature aussi. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sinon qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain et buvait dans sa coupe. Elle dormait sur son sein. Il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer le repas. Au voyageur qui était venu chez lui, et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il prend la brebis du pauvre, tout simplement, sans vraiment réfléchir, vraiment, c'est comme ça, il se sert. Il a pris la brebis du pauvre, il l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Et entendant cela, David dit, ben, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela même mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Jamais ça lui est venu à l'idée que cet homme-là, c'était lui-même qui avait fait une mauvaise chose, qui avait pris la brebis du pauvre. Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Mais voilà, tu seras puni parce que tu as fait une chose vraiment immonde. Mais il l'a fait parce qu'il avait étouffé. Enfin, il avait perdu de vue sa conscience. Il avait agi selon les désirs de la chair. On ne parle pas de désirs sexuels, hein. Après tout. Mais j'ai regardé ce matin comme ça pour revoir dans ma concordance, et jamais le mot sexe ou sexualité n'apparaît jamais, c'est beaucoup dire, dans les Écritures. Une seule fois, c'est dans la lettre de Pierre, la première lettre de Pierre, chapitre 3 et verset 7, qu'il dit qu'il faut regarder la femme, sa femme, son épouse, hein, comme d'un sexe plus délicat, plus faible. Et c'est le seul passage. Et d'ailleurs, c'est traduit maintenant, non plus par sexe, mais par nature. Alors, la sexualité, d'où ça vient? Eh bien, c'est le 19e siècle. Hein. Merci Sigmund Freud. Merci Sigmund. Et maintenant, on ne parle que de ça. Sexe. Il n'y a que ça qui compte. Mais dans la Bible, jamais on emploie le mot sexe pour parler justement de ce qui est ce que vous comprenez. Hein. Bon, ben voilà, ben j'arrête ici. Et conclusion, seul l'Esprit Saint et les Écritures nous apportent une aide pour garder notre conscience saine, pure et équilibrée. Cela demande naturellement de notre part de la vigilance, ne pas faire comme David, hein, de temps en temps oublier, être déconnecté en quelque sorte de notre conscience, selon Dieu, et de la vigilance et aussi, comme on le dit trop souvent, prier. La première des choses qu'il faut faire, c'était Pierre qui le disait tout à l'heure, la première des choses qu'il faut faire le matin en se levant, même le soir en se couchant, mais c'est la prière. Prier pour ne pas, premièrement, tomber en tentation, comme Jésus le demande, mais aussi prier pour ne pas répondre du tac au tac ou à ses ennemis de façon mauvaise ou violente, et toujours essayer d'avoir cette bonne conscience. Et c'est Paul qui termine ainsi: je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je m'efforce constamment d'avoir une bonne conscience, une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Merci. Amen.